Peter Lautin, Angoulême, RFI.
Fin de ce journal, mais suite d'RFI Matin, Andréane Mellard.
Merci Vincent Dublanche, à tout à l'heure. Prochain journal dans 20 minutes sur RFI à la une, les États-Unis et Donald Trump. La guerre commerciale relancée par le président américain, prochaine cible. L'Union européenne, nous appellerons Karine Auton à 7h. D'abord, notre grand invité Afrique ce matin, il est l'un des candidats au poste de président de la Commission de l'Union africaine, l'ancien ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Rangiamandrat. Entretien à suivre avec Christophe Boisbouvier. D'abord, le sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Et du football pour commencer, des joueurs africains à nouveau en évidence sur les pelouses européennes, à commencer par la Ligue 1 en France.
En bas de tableau surtout, André Ayou permet au Havre dernier de prendre un point face à Angers. Le Ghanéen a ouvert le score à un quart d'heure de la fin avant que les Angevins, sur une passe du Sénégalais Ibrahim Aniane, ne parviennent à égaliser. Une 20e journée de Ligue 1 qui a permis à Nantes de prendre un peu d'air avec un succès 2-1 sur Reims. Jean-Charles Castelletto, le défenseur camerounais des Canaries, malheureux puisqu'il a inscrit un but contre son camp, mais Mostafa Mohamed, l'Égyptien, a lui marqué le but de la victoire à la 70e minute. A noter le tout premier succès d'Habib Bey sur le banc de Rennes. L'ancien international sénégalais réveille les Bretons qui restaient sur 4 défaites de suite, avec cette fois une victoire sur Strasbourg 1-0.
En RDC, le championnat national peine à se tenir, mais cela n'empêche pas les révélations de jeunes joueurs, à commencer par Favardi Bongeli.
Il n'a que 17 ans, mais déjà 3 matchs à son actif. Bilan, 2 buts, 3 passes décisives et 3 trophées d'homme du match. S'il est encore trop tôt pour en faire la nouvelle star de la Ligue 1 congolaise, les comparaisons sont déjà flatteuses, Pascal Mwangala.
Faire fi des médias qui ont tendance à trop l'encenser, Favardi Bongeli espère plutôt continuer à apprendre aux côtés de ses aînés et des coachs pour grandir.
Les réseaux sociaux, quoi que ce soit, donc j'ai pas d'abord dans ma tête. Moi, je dois atteindre les sommets du foot d'abord, travailler avec humilité, donc à écouter le coach, à écouter les consignes de vieux au terrain.
Inspiré par Cristiano Ronaldo, le jeune attaquant des Corbeaux a une marge de progression qui promet, selon Alexandre Jurin, coach adjoint du TP.
Favardi commence à être beaucoup plus efficace. Au tout début, dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans la finition, il pêchait un peu et à force de travail, il commence à progresser là-dessus.
Sylvie Meya, journaliste des sports de Top Congo FM de Kinshasa, compare plutôt Bongeli à Trésor Mputu, star incontesté du football de RDC des deux dernières décennies et qui était arrivé à Mazembe à l'âge de 18 ans.
Bongeli, lui, il a 17 ans. À une année près, il a le flair, il est technique, avec le travail, avec l'encadrement, avec l'environnement propice. Ce garçon-là peut faire plus, pourquoi pas, nous faire ressentir ce que Trésor n'a pas pu nous faire ressentir de plus.
Pour beaucoup d'autres Congolais, Favardi Bongeli est simplement une étoile faite pour briller. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
On parle de judo à présent. Antoine, l'Arena de Bercy accueillait ce week-end le premier grand événement de 2025, le Paris Grand Slam.
Sur les 17 combattants africains engagés, seuls deux ont franchi un tour. L'Angolaise Fernanda Kimbira en plus de 78 kilos et l'Ivoirien Jérôme Assafoiselman en moins de 73. Sous les yeux de Clarisse Agbenienou, la Française d'origine congolaise était dans les tribunes, elle qui digère encore sa précédente Olympiade achevée par des vacances au Togo et en Côte d'Ivoire. Une coupure salutaire.
Je suis partie en Afrique, ça m'a fait vraiment du bien parce que ça faisait 8 ans que je n'étais pas retournée voir ma famille et aller en Afrique et puis j'ai pu emmener Athéna pour la première fois. Donc ça a été vraiment d'une valeur sentimentale énorme et ça m'a fait énormément de bien. C'est mes origines, me rattacher et on a besoin de récupérer, on a besoin de se rapproprier un petit peu notre corps, notre mental. Ça a été un peu livré aux yeux de tous, à la France entière, au monde entier. Donc là, ça fait du bien de pouvoir peut-être reprendre un peu plus incognito qu'à la maison comme ça, avec encore sur les feux des projecteurs qui... parfois être un peu stressant, donc c'est bien de pouvoir reprendre tranquillement.
Clarisse Agbenienou, la Française d'origine togolaise, avec Eric Mamoy.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mellard.
Dans l'est de la RDC, les combats continuent. Dans la province du Sud Kivu, notamment, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont toujours à l'offensive. Hier, l'armée congolaise a annoncé le décès dans ces combats de l'un de ses officiers, le colonel Rugabisha, mort d'après le communiqué officiel samedi après des affrontements au niveau de la localité de Niabiboué. Il est à Washington depuis hier. Le premier ministre israélien doit d'abord rencontrer aujourd'hui, lundi, Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient et s'entretiendra demain avec le président américain Donald Trump qui, lui, échangera aujourd'hui avec les dirigeants canadiens et mexicains. Les deux pays ont déjà déclaré qu'ils contesteraient les nouveaux droits de douane américains devant l'OMC. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, menace le Panama de mesures en l'absence de changements immédiats sur le canal de Panama. Mais le président panaméen a lui proposé des discussions techniques aux États-Unis. Et puis les Grammy Awards, un mot, c'était cette nuit aux États-Unis. Beyoncé et son disque Cowboy Carter, sacré album de l'année. Ce sera le 15 février prochain. Les 55 chefs d'État de l'Union africaine éliront le nouveau président de la commission de l'UA pour un mandat de 4 ans. Trois candidats sont en lice la semaine dernière. RFI vous faisait entendre le ministre djiboutien des Affaires étrangères qui est candidat. Voici ce matin le malgache Richard Rangiamandrat, ex-ministre des Affaires étrangères. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Richard Rangiamandrat, bonjour.
Oui, bonjour.
Si vous êtes élu le 15 février prochain, quelles seront vos deux priorités?
Tout d'abord, il faut de manière urgente mener à terme ces réformes qui ont été entamées depuis 2016 avec des propositions parfois douloureuses, mais il faut passer par ça pour que l'Union africaine, pas seulement la Commission, mais tous les organes de l'Union africaine, soient moins bureaucratiques, plus efficaces, moins de réunionites et surtout un état d'esprit de cohésion entre les organes. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est comment faire mieux avec moins. Maintenant, le budget de l'Union africaine a été réduit. Donc, il va falloir faire avec. Et donc, je me propose de mettre en place un plan stratégique pour 3 à 4 ans. Et j'espère que les instances dirigeantes de l'Union africaine vont adopter cette démarche.
Quand la guerre fait rage en Afrique, comme en ce moment dans l'est du Congo-Kinshasa, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'en occupe et pas le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Est-ce que vous ne le regrettez pas?
De prime abord, on peut dire que les crises sur tous les continents devraient revenir évidemment à des instances continentales telles que l'Union africaine ou le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Tout cela est possible, mais voyez-vous, le Conseil de sécurité des Nations unies, il faut le reconnaître, c'est l'instance planétaire qui résout les problèmes de cette envergure. Donc, je ne m'en offusque pas pour autant. Je pense que l'Union africaine doit être présente dans les prises de décision au niveau du Conseil de sécurité. J'espère que l'Union africaine ne soit pas écartée de la résolution de la crise dans l'immédiat.
Dans la guerre au Nord Kivu, tout le monde désigne le Rwanda comme complice, sauf l'Union africaine et les trois pays qui représentent l'Afrique à l'ONU. Pourquoi cette retenue?
Disons que l'Union africaine est la maison commune qui rassemble tous les États membres de cette Union. Je pense que l'Union africaine se doit de rester solidaire aussi bien avec les versions et les arguments avancés par Kigali, autant que les arguments défendus par Kinshasa. Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice qui doit être exécuté afin de garder la solidarité entre les pays africains. Et donc, il faut vraiment que ce processus de Nairobi et aussi le processus de Luanda aboutissent à des accords qui rassurent les uns et les autres.
Face à vous, Richard Rangiamandrat, il y a deux candidats, le Kenyan Raila Odinga et le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Qu'est-ce qui vous distingue de ces deux autres candidats?
Je pense que le fait de ne pas être un chef de parti politique est un avantage. Je ne prétends pas avoir une vingtaine d'années à faire de la diplomatie caméléon, à écrire des notes verbales et à faire des discours ici et là. Non, je suis un homme de terrain. J'ai beaucoup travaillé dans les ONG, au COMESA, qui est une organisation régionale dans l'Afrique de l'Est. J'ai travaillé pour les Nations Unies au sein du PNUD et la Banque mondiale. Et puis j'ai été ministre de l'économie et des finances. J'ai négocié beaucoup de financements de projets pour mon pays. Donc, je ne suis pas un candidat de salon et je pense que c'est un avantage. Et puis, je ne cherche pas à être le lion qui va rugir dans la jungle. C'est ce que j'ai entendu d'un de mes concurrents. Je veux rester un candidat réaliste, un candidat pragmatique et je pense que je peux répondre aux attentes de notre organisation.
Alors le lion qui va rugir dans la jungle, c'est l'ancien premier ministre kényan, Raila Odinga, qui est favori dans cette bataille parce qu'il a été premier ministre justement et parce qu'il est soutenu par un pays influent, le Kenya. Qu'est-ce que vous répondez ?
Tout le monde est favori jusqu'au jour du vote, Monsieur Boisbouvier. Quelle serait donc l'image que l'Union africaine va projeter à la communauté internationale ? Est-ce que c'est une Union africaine de plus en plus politisée, plus orientée vers les combats politiques ? Est-ce une Afrique qui est plus orientée vers l'économie, l'éducation des jeunes, et ainsi de suite ? C'est ce que je veux incarner d'ailleurs. Je veux mettre en place une architecture économique et financière avec la Banque africaine de développement et les institutions. C'est ce que je sais faire. J'ai été ministre de l'économie et des finances et je sais comment négocier avec ces instances de la finance internationale. Et c'est ce qui est important.
Richard Rangiamandrat, je vous remercie.
L'ancien ministre malgache des Affaires étrangères, candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine, il répondait à Christophe Boisbouvier. Votre chronique matière première sur RFI. Et ce matin, la Syrie, bientôt 2 mois après la chute de Bachar al-Assad et l'installation au pouvoir de nouvelles autorités, le pays peine à s'approvisionner en pétrole. Le premier appel d'offres publié par le nouveau pouvoir syrien n'a pas reçu de réponse. Un casse-tête pour la Syrie qui va devoir trouver d'autres solutions pour répondre à la demande en essence, gasoil et fioul. Marie-Pierre Olfond.
Pour ses besoins immédiats, la Syrie cherche à importer 4,2 millions de barils de pétrole brut ainsi que 100 000 tonnes de fioul et de diesel. Des volumes qu'elle va devoir donc se procurer auprès d'intermédiaires locaux puisque les majors pétrolières ont boudé les appels d'offres émis par Damas. Certaines sources au sein de ces majors auraient avancé un manque de visibilité sur la levée des sanctions européennes. L'UE a déclaré lundi qu'une feuille de route pour alléger les sanctions contre la Syrie était prête mais qu'elle prévoyait une approche graduelle. D'autres fournisseurs de pétrole auraient été dissuadés par les conditions financières. Un paiement à crédit assorti d'une obligation pour le vendeur de déposer une somme dans une banque syrienne allant de 200 à 500 000 dollars. On appelle ça une garantie de performance. Elle permet à la Syrie de s'assurer qu'au dernier moment, le pétrole qu'elle attend ne sera pas dérouté vers une autre destination. La pratique est courante, explique un négociant, et les montants demandés en dépôt n'ont rien d'exceptionnel puisqu'ils peuvent être parfois beaucoup plus élevé dans certains pays. Mais de fait, dans ce cas précis, la vente a visiblement été jugée trop risquée ou pas assez intéressante par les majors pétrolières. Ce désintérêt pourrait mettre en difficulté la Syrie et compromettre sa volonté de redresser son tissu économique. Les besoins du pays en produits raffinés oscillent entre 100 et 200 000 barils par jour. Ils étaient largement couverts avant la guerre par une production de 400 000 barils par jour de brut. Mais depuis le début du conflit en 2011, la production s'est effondrée et le pays est devenu dépendant de l'Iran pour son approvisionnement. Or, plus aucune cargaison iranienne de brut n'est arrivée depuis le mois de novembre dernier. Le pays doit donc à tout prix trouver de nouveaux fournisseurs. Le risque pour la Syrie est de se retrouver à sec et de voir rapidement les prix grimper à la pompe, ce que cherche généralement à éviter un gouvernement nouvellement installé.
Marie-Pierre Olfond, RFI Matin, on reste en Syrie tout de suite. Le pays au cœur de notre grand reportage du jour, 20 minutes de long format et un extrait tout de suite, la Syrie libérée du joug des Assad le 8 décembre dernier, lorsque la coalition rebelle menée par les islamistes du Hayat Tahrir al-Sham entre dans Damas et prenne le pouvoir. Celui qui a conduit la rébellion s'appelle Ahmed al-Shara. Il vient d'être nommé président par intérim et il multiplie les initiatives pour rétablir le dialogue au sein de la société syrienne. Un défi de taille au vu des communautés nombreuses et des poches de contestation qui subsistent dans le pays. Une guerre aussi entre factions pro-turques et combattants kurdes de Syrie après la chute de Bachar al-Assad, la difficile unification du pays. C'est un grand reportage de Manon Chaplin. En voici un extrait.
Nous sommes dans le village de Rorbat el-Maizeh, en pleine nuit. Les rues sont complètement désertes. C'est dans cette région, sur la côte syrienne, entre Tartous et Latakié, poche alaouite, ancien fief assadiste, que se sont réfugiés la majorité des loyalistes au régime de Bachar al-Assad. Il y a quelques jours, 3 habitants de ce village ont été tués, pris en embuscade dans des combats entre loyalistes et combattants du nouveau gouvernement. Et nous avons rendez-vous avec Armad. Il était en train de boire le thé avec son père dans une petite tente de leur jardin lorsque des combattants d'Ayat Tahrir al-Sham sont arrivés. Son père a été tué.
Un homme se tenait juste là. Il a commencé à crier et à tirer dans notre direction sur cette tente. Je me suis tout de suite échappé, mais mon père, lui, n'a pas eu le temps de partir.
On entre dans la tente.
Regardez. Ici, vous pouvez encore voir les balles.
Il y a encore des taches de sang par terre. Quelques voisins nous ont rejoints, dont Mahmoud. Il tient une épicerie juste à côté. Il était là quand les tirs ont commencé.
Les combattants d'Hachtès sont arrivés ici comme s'ils arrivaient à la guerre. Tout le monde dans le village était terrifié. Nous sommes restés cloîtrés chez nous. Les soldats cherchaient des personnes, en particulier des loyalistes. Ils sont entrés dans les maisons. Ils ont demandé à ouvrir les portes. Beaucoup ont refusé. Les soldats ont commencé à crier et à tirer. Par peur, certains habitants ont pris la fuite. Ils se sont mis à courir à travers les champs et ils se sont fait tirer dessus. Le problème, c'est que beaucoup de soldats pensent que nous sommes des soutiens de l'ancien régime car nous sommes alaouites. Mais ce n'est pas vrai. Tous les alaouites n'étaient pas des soutiens du régime et certains ont juste été forcés de le soutenir. Les habitants de ce village ont été victimes d'injustice. Ils ont été tués alors qu'ils n'étaient pas du côté du régime. Mais bon, c'est la guerre, vous savez. Et dans les guerres, les bons comme les mauvais sont tués.
Ce grand reportage de Manon Chaplin à écouter aujourd'hui en intégralité sur RFI à 12h10 et 20h40 heure de Paris, à retrouver aussi sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre application RFI Pure Radio.
RFI Matin.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La Guinée se dirige-t-elle vers un nouveau report de la fin de la transition ? Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Pourtant, le général Doumbouya avait promis un référendum et des élections générales en 2025.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Orchestra Baobab et Idrissa Diop.
Je suis vraiment défoncé, ils me disent d'arrêter d'y penser.
Andéol.
Ces temps-ci, après minuit, je dis rien de compréhensible. Le compte bancaire dans le rouge, mais genre vraiment très foncé. Comme ton rouge à lèvres, c'était peut-être un signe.
RFI Musique.